ce qui a modifié évidemment la pratique des enseignants en éducation aux médias et l'information.
On a 45 absences pour ce matin.
C'est bien évidemment l'apparition des plateformes de médias sociaux.
Handicap et scolarité revêtent des situations très différentes auxquelles l'inclusion tente de répondre.
Son école, il ne veut plus en franchir la grille.
Selon une étude, un quart des écoles ne propose aucune éducation à la sexualité.
Pour l'instant, l'institution ne prend pas la mesure du mal-être dans l'éducation nationale, ça c'est sûr.
Mais l'école, elle sert également à apprendre ce qui se passe dans le monde.
C'est l'élève au centre parce que c'est lui le plus important dans le système en fait.
Bienvenue dans l'heure de colle.
Bonjour à toutes et à tous. Asseyez-vous, sortez vos trousses et vos cahiers et bienvenue dans l'heure de colle, l'émission pilotée par les étudiants en master journalisme à l'ESJ Pro Montpellier et à l'université Paul Valéry. Je suis Lou Jourdain et je suis votre animatrice du jour. Dans cette émission, nous allons parler de l'éducation sexuelle à l'école. Alors l'éducation sexuelle n'est pas une nouvelle discipline scolaire, elle développe au sein des enseignements déjà présents le respect de soi, de l'autre et l'acceptation des différences. Elle intègre donc une dimension affective, culturelle et éthique de la sexualité. Contrairement à ce qu'on peut penser, l'éducation à la sexualité est présente au collège et au lycée, mais aussi à l'école primaire. Dans les écoles, les professeurs sont chargés de favoriser l'acquisition d'un esprit critique, le sens et le respect de la loi. L'éducation à la sexualité prend donc plutôt la forme d'une invitation au dialogue et devient l'éducation à la vie affective. Au collège et au lycée, c'est au moins 3 séances annuelles d'éducation à la sexualité qui sont mises en place par le corps enseignant ou par des partenaires extérieurs comme le planning familial. Mais comment se passent ces séances et à quoi servent-elles ? Nous reviendrons sur ces questions avec Georgios Clouras, animateur de prévention au planning familial de l'Hérault. Le planning familial est l'une des 3 associations qui a attaqué l'État pour défaut de mise en œuvre de la loi. Après la publication du rapport de l'Inspection Générale de l'Éducation, du Sport et de la Santé, qui montre que seuls 15% des écoliers et lycéens et moins de 20% des collégiens en bénéficient. Pour accompagner l'entretien, Flavien Delcloque nous parlera de la question de l'éducation sexuelle dans le secondaire avec son reportage au collège de Paulhanne, un des rares établissements hérotais qui dispense réellement ses 3 séances d'éducation à la sexualité. Pour finir, Rose nous livrera sa chronique. Elle entrera dans la peau de Lola à la découverte des séances d'éducation à la vie affective et sexuelle. J'espère vous avoir donné envie d'en apprendre plus sur l'éducation à la sexualité dans le parcours scolaire. Si vous êtes prêts, l'heure de colle, c'est parti. Bonjour, Georgios Clouras.
Bonjour à vous, merci beaucoup pour l'invitation.
Ben merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Rose.
Bonjour.
Et bonjour Flavien.
Bonjour.
Maintenant, place au reportage.
Collecter des informations et les transmettre, c'est le cœur du métier de journaliste.
Si on peut, on va pas s'en priver. Hein.
Ben ouais, ouais, ouais.
Reportage.
Alors, je vais vous parler en prenant en compte un chiffre. Ce chiffre, c'est 2,7. Si je vous dis 2,7, je ne vous parle pas d'une mauvaise note ou du taux de professeurs en moins l'an prochain. 2,7, c'est le nombre moyen de séances d'éducation à la sexualité que les élèves ont eues à la fin de leurs années collège et lycée, d'après un sondage de l'association Nous Toutes, publié en janvier 2022. Certes, ce chiffre ne date pas de cette année, mais ne nous mentons pas, ce chiffre n'a sans doute pas basculé à 21, comme le préconise la loi du 4 juillet 2001. Cette loi stipule, je cite, « qu'une information et une éducation à la sexualité sont dispensées dans les écoles, les collèges et les lycées à raison d'au moins 3 séances annuelles et par groupe d'âge homogène ». Fin de citation. Si on parle uniquement des collèges et des lycées, on arrive donc à 21 séances au total pour les élèves depuis 23 ans. Pour autant, une moyenne de 2,7 séances, ça veut dire qu'en moyenne, il n'y a pas le nombre requis pour seulement une année. On pourrait donc croire que tous les établissements sont en retard sur la question. Tous ? Non. Dans la ville de Paulhan, au collège Maffre-Baugé, un irréductible collège échappe à ce retard et la loi y est respectée. J'ai donc pu interroger Céline Dupé et Julie Delcasso, respectivement principale et professeure de SVT dans ce collège, qui m'ont raconté pourquoi elles tiennent autant à la mise en place d'ateliers à ce sujet.
C'était plutôt par conviction, oui. L'envie de répondre à certains besoins des élèves. Et puis, on a quand même observé des cas particuliers d'élèves qui rencontrent certaines de ces problématiques. Et pour offrir finalement les informations et des moments de discussion à tous les élèves, petit à petit, on a fini par proposer des ateliers sur tous les niveaux.
Au programme, un atelier chaque trimestre pour chaque groupe de niveau pour atteindre cette fameuse information 3 fois par an. Estime de soi, consentement, puberté, contraception, harcèlement, orientation sexuelle, infection sexuellement transmissible font notamment partie des sujets traités selon les groupes d'âge sous forme d'ateliers ludiques, de quiz, de jeux, de réunions d'explication avec des professionnels. Cela apporte, selon Madame Del Casso, une autre relation avec les élèves.
Ça rassure en fait d'être formé avant de se lancer. Et puis dans un deuxième temps, qu'il faut se lancer parce que vraiment ça apporte beaucoup aux élèves et même à nous, en fait, adultes, parce que quand on est intervenant en éducation à la sexualité, on crée une autre relation avec les élèves et on aborde beaucoup de thèmes sur lesquels on peut passer beaucoup de temps à discuter avec eux. Et ça apporte vraiment des deux côtés.
Pourtant, la sexualité n'est pas forcément un thème facile à évoquer, que ce soit avec la famille ou bien avec le personnel éducatif. Madame Dupé nous parle de cette difficulté.
C'était quand même un thème sensible, tant pour les enseignants que pour les familles. Nous, on a la chance, à Pôle 1, nous n'avons jamais eu de famille qui se soit opposée à la participation de leur enfant sur ces ateliers. Mais on est tout à fait à même de penser que sur certains secteurs, ça peut poser problème.
Tout le monde est déconnecté des univers qui ne sont pas les siens.
On fait preuve de transparence, d'autocritique. On essaie de n'oublier aucune question qui fâche.
L'interview.
Merci Flavien. Georgios Clouras, on a évoqué en introduction la fameuse plainte déposée contre l'État pour défaut de mise en œuvre de la loi. Pourriez-vous nous expliquer cette plainte et pourquoi le non-respect de cette loi n'est pas pris au sérieux ?
Très bien. La plainte concerne le fait, comme votre collègue l'a dit tout à l'heure, que l'État même ne respecte pas ses propres lois en ce qui concerne la mise en place de l'éducation à la vie affective et sexuelle dans les écoles, au collège et au lycée. Donc ça c'est l'objet de la plainte. Alors là, moi, j'ai mes propres explications. Je peux vous donner quelques éléments. Et puis après, je pense qu'il vaut mieux poser cette question-là aux personnes qui sont plus concernées, qui se trouvent dans les ministères. Personnellement, je trouve que tout d'abord, il s'agit d'une volonté de ne pas mettre les moyens nécessaires pour réaliser ce qu'on appelle donc l'éducation à la vie affective sexuelle. Des moyens qui sont en lien avec l'embauche de plus de personnels qualifiés qui pourraient faire ça, et aussi en termes financiers pour soutenir les acteurs déjà présents aux écoles, donc qui pourraient leur permettre de développer et mettre en place ces projets-là. J'espère que j'ai répondu à votre question.
Oui, merci. Pourquoi est-ce important selon vous de dispenser ce genre de cours d'éducation à la vie sexuelle ?
Bon, pour plusieurs raisons, hein. La dame du collège dont vous avez parlé a dit certaines choses. Moi, je me retrouve. D'ailleurs, je suis très content que je viens de découvrir qu'il y a un établissement scolaire en France qui fait ça. Parce que jusqu'à aujourd'hui, je pensais qu'il n'y a aucun établissement. Donc, pourquoi ? Les raisons sont très, très, très nombreuses. Au planning familial, si vous voulez... Pour nous, l'éducation à la vie affective et sexuelle, c'est comme un tremplin. Vous voyez tremplin, le mot trampoline, non ? Vers l'égalité, en fait. Vers le respect des droits des personnes, vers le respect de chaque individu. Donc, il y a tout un ensemble de raisons qui font qu'il est vraiment fondamental de mettre en place... des actions au sein de l'éducation nationale. Tremplant vers l'égalité, pourquoi ? Parce que vous les connaissez peut-être mieux que moi, que la société, elle est inégalitaire. Elle est inégalitaire non seulement en termes de pauvres et de riches, mais là, pour le coup, en ce qui concerne les libertés et les droits des femmes, le planning familial est une association qui est féministe, non ? Et aussi également les droits des personnes qui souhaitent vivre ou avoir une sexualité, et qu'on ne leur permet pas. Donc, notamment, c'est pourquoi c'est important l'éducation à la vie affective et sexuelle. Et puis après, il y a un autre volet qui va au-delà des droits, qui concerne l'émancipation collective et l'émancipation individuelle. Il ne s'agit pas, si vous voulez, pour nous, de dicter des comportements ou des attitudes, mais il s'agit de, quelque part, essayer... de rendre à chaque individu l'autonomie pour qu'elle puisse vivre sa vie affective, sa vie sexuelle, sans problème, j'ai envie de dire.
Et du coup, quand vous rendez dans des collèges et dans des lycées, vous organisez différents types de séances en lien avec les professeurs. Quel est le contenu de ces séances ? Quels sont les thèmes abordés ?
Déjà, peut-être qu'il faut prendre en compte la demande de la plupart des institutions, de la plupart des écoles et des professionnels qui concernent plutôt les risques liés à la sexualité. Bon, à la vie sexuelle, les risques, on peut dire qu'ils sont pas très nombreux, non? Il y a la question donc des infections sexuellement transmissibles, de la grossesse non désirée, et puis après les grands volets des violences. Donc la plupart des demandes venant de l'extérieur concernent cela. Or, nous avons l'habitude de mettre en place des outils afin de pouvoir, repérer des besoins et des préoccupations des jeunes. Dans chaque fois qu'on va en classe, il y a cette démarche-là. Cette démarche-là vient de l'éducation populaire, car le planning familial est une association d'éducation populaire. Et du coup, dans ces séances-là, nous essayons de repérer justement des questions qui viennent des jeunes pour pouvoir ensuite les répondre. Ensuite, il faut peut-être aussi prendre en compte un autre élément qui est important selon nous au planning familial, c'est de présenter ou d'aborder la vie affective et sexuelle plutôt sous un prisme positif. Cela veut dire donc qu'il n'y a pas que les violences, il n'y a pas des agressions, il n'y a pas que les infections sexuellement transmissibles, il n'y a pas que des choses négatives, mais il y a les côtés super sympas de la vie affective et sexuelle qui pourraient être le plaisir, l'amour, le septième ciel, bref, tout cela. Et nous pensons que c'est super important de pouvoir échanger avec les jeunes aussi là-dessus. C'est des choses dont les jeunes n'ont pas l'habitude. Donc, c'est important.
À quel niveau est-ce que le planning familial, il intervient dans les collèges et les lycées? Et peut-être, vous pouvez me dire, qui appelle à ce que le planning familial intervienne?
En pratique, la plupart des fois, nous intervenons auprès des classes de 4e, de 3e, de 2e et de 1er. En réalité, nous n'intervenons que dans ces classes-là, et en plus pour très peu de temps, donc à savoir 2 heures par classe, car on revient là sur la question de tout à l'heure, car il n'y a pas les moyens. Autrement dit, il y a beaucoup de demandes, car de plus en plus, on se rend compte de l'importance de l'éducation à la vie affective et sexuelle. Or, nous n'avons pas de moyens. Il n'y a pas assez de monde dans le département de l'Hérault. Il n'y a pas assez de ressources financières qui permettent de mettre en place ces actions.
En octobre dernier, la sortie au cinéma du film Le Consentement, tiré du livre de Vanessa Springora, a fait le buzz auprès des adolescents sur les réseaux sociaux. Mmh. Est-ce que parfois vous vous servez de l'actualité et de ce qui intéresse les jeunes pour aborder des sujets un peu plus durs comme le consentement, l'idée de secret ou encore plus loin le cas de l'inceste?
Nous avons l'habitude d'aborder la thématique des violences à caractère sexuel et sexiste avec les jeunes. Et dans ce cadre-là, nous abordons soit de façon superficielle, soit de façon approfondie, selon les conditions qui sont là, la thématique du consentement. Les jeunes, dans leur majorité, ils sont très intéressés par ce type d'échanges.
On a évoqué au début de l'émission l'éducation à la vie affective dispensée dans les écoles primaires. De quoi est-ce qu'on parle dans ces cours-là?
En école primaire?
Oui.
Bon, ça dépend déjà du niveau, non? Donc, par exemple, avec une classe de CE2, on va aborder la question de la puberté. Pour nous, il serait important non seulement de rester sur des échanges qui concernent, j'ai envie de dire, techniques, donc l'âge d'arrivée des règles, la question du changement du corps, mais aussi d'aller plus loin et d'échanger avec les jeunes sur leur propre vécu, comment ils vivent tout cela. Je vous ai donné un exemple pour la classe de CE2. Si on parle des enfants plus jeunes encore, déjà il faut dire qu'il n'y a pas un programme défini. Moi, dans mon expérience, j'ai abordé la question du corps, du respect du corps de l'autre, du respect de notre propre corps. C'est ce que j'ai fait avec les enfants de 6 et de 7 ans. Et je vous dis très clairement que les enfants, ils sont très, très intéressés aussi par ces sujets-là. Évidemment, on ne va pas avoir les mêmes discours ou la même parole avec des jeunes de 15 ans qu'avec des enfants de 6 ans. Donc, ça c'est certain.
Et est-ce qu'on peut expliquer le manque de ces séances, que ce soit à l'école primaire ou au collège ou au lycée, par une peur des instituteurs ou des professeurs d'intervenir sur ce sujet, de parler de ces thématiques? Est-ce que pour vous, il y a un tabou des professeurs vis-à-vis de ce sujet?
Bon, là, les tabous, oui, concernent certains professeurs. Or, il serait dommage de dire, il y a des professeurs qui sont méchants ou qui sont très timides pour aborder cette question-là. La sexualité est un tabou dans toute la société. Donc, cela veut dire qu'il y aura des professeurs, des journalistes comme vous, d'autres personnes qui auront plus ou moins la facilité d'aborder ces thématiques-là. Le fait d'être mal à l'aise pour aborder certains sujets, ce n'est pas du tout un objet de jugement, selon moi. Il est évident que nous pouvons tous et toutes être mal à l'aise quand on aborde ces questions. Donc, ce qui est important, c'est de se rendre compte de notre difficulté et puis après de passer les relais à d'autres personnes qui ont moins de difficultés à les faire. Je pense que la difficulté ne vient pas du fait qu'il y a des professeurs qui voient ça comme tabou. De plus en plus, il y a des professionnels qui sont sensibilisés et qui ont envie de mettre en place des choses, qu'il s'agisse des infirmières scolaires, professeurs SVT, CPE dans les établissements scolaires. Je ne pense pas que ça vient de là. Je pense que la principale raison est le manque des moyens. Puis après, évidemment, dans certains établissements, s'il y a une principale ou un proviseur qui voit les sujets de la sexualité comme quelque chose qui ne concerne pas les jeunes, qui est un tabou, évidemment, ça ne va pas faciliter l'intervention du planning familial. Globalement, on peut dire que tant une institution, qu'il s'agisse d'une école ou d'une autre structure, soutient une démarche, on va dire que notre travail devient plus simple et plus facile. S'il y a l'inverse qui se passe, ce qui est le cas parfois, notre intervention elle est plus difficile quand on n'a pas donc le soutien de l'institution.
En avril 2023, des parents d'élèves d'une école de Saint-Étienne ont dénoncé des propos choquants comme fellation ou encore sodomie tenus à l'encontre des élèves de CM2 lors d'un cours d'éducation à la vie affective. Le rectorat lui a reconnu une erreur d'appréciation de la part de l'instituteur. Mais finalement, quels termes devons-nous utiliser face à nos enfants pour leur parler de sexualité et où est-ce qu'on doit s'arrêter quand on aborde ces sujets-là?
C'est une très belle question, car évidemment, les parents ont la légitimité de s'inquiéter pour les parents ou même de s'imaginer des choses lors d'une séance d'éducation à la vie affective et sexuelle. Personnellement et au planning familial, nous avons, comme je vous ai dit, l'habitude de s'appuyer beaucoup sur les propos des jeunes. Et il suffit d'une seule rencontre avec une classe de CE2, par exemple, ou de 3e ou de 4e, où on réussit à ouvrir des espaces de parole pour voir ce que les enfants ont à dire. Moi, je ne vous parle actuellement que des chiffres. Si je ne me trompe pas, vers l'âge de 12 ans, environ 50% des enfants, filles, garçons inclus, ont déjà visionné des images ou des vidéos pornographiques. Du coup, moi, ça ne m'étonne pas du tout qu'à l'âge de 10 ou 11 ans, on parle de la fellation, de la sodomie, sans forcément comprendre ce que ça veut dire. Quoi d'autre dire? J'ai beaucoup de choses à dire, mais je ne sais pas pourquoi commencer. Je me lance?
Allez-y.
Ok, d'accord. Évidemment qu'avec les jeunes, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on ne va pas nommer certaines choses qui ne correspondent pas à leur développement psychique, j'ai envie de dire. Or, le problème, c'est que ça vient la plupart des fois des enfants. Ces mots-là viennent des enfants, des mots vulgaires qui ont à voir avec des pratiques. Viennent de la plupart des fois des enfants. Donc il faut se rendre compte de cette évidence-là. Comme je vous ai dit, je vais souvent dans des classes de 3e et 4e. Il suffit d'une seule animation pour se rendre compte de ce que les enfants savent, de ce qu'ils ne savent pas, de ce qu'ils imaginent. Ce n'est pas choquant. La pornographie, elle est accessible à de tout petit âge, en fait, via les écrans, les téléphones portables, etc. Donc, effectivement, on peut prendre comme base qu'un enfant, quand il arrive au collège, il a entendu déjà parler des choses, il a déjà visionné des images, et c'est pourquoi, d'ailleurs, on est vraiment en retard quand on intervient en quatrième et en troisième. C'est des choses qu'il faut voir vraiment, vraiment bien plus petits. Vous m'avez tout à l'heure posé la question du qu'est-ce qu'on fait avec les enfants les tout petits. De mon expérience, j'ai commencé à aborder la question de l'élection de la femme, de l'homme dans la société. Ils ont beaucoup de choses à dire. Si on ne travaille pas la question de l'image de la femme, des femmes dans la société, et si l'enfant il commence à visionner des vidéos porno et il a les influences de la société qui est une société inégalitaire et sexiste, eh ben il est évident que quand il arrive à 15 ou 16 ans, il peut tenir des propos ou même avoir des comportements qui sont pas acceptables, j'ai envie de dire. Pour autant, il ne s'agit pas de stigmatiser les enfants. Il s'agit tout simplement de prendre en compte la dimension sociale et globale de ce qui se passe. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
C'est très bien. Merci Georges Cloras d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir éclairé sur le problème de l'éducation à la sexualité en milieu scolaire.
Ben, merci à vous parce que c'est via aussi des personnes comme vous, c'est-à-dire sensibilisées, que je trouve que la situation peut s'améliorer.
Merci. C'est maintenant au tour de Rose de prendre le micro pour sa chronique à la découverte des séances d'éducation à la vie affective et sexuelle.
Coucou tout le monde, moi c'est Lola. J'ai 10 ans. Enfin, 10 ans, 3 mois et 6 jours. Mais on m'a dit que ça faisait bébé de le préciser. Aujourd'hui, avec Sylvie, ma maîtresse, on a eu notre premier cours d'éducation à la vie affective. Théo, mon voisin de classe, m'a dit que c'était pour apprendre à faire les bébés. Mais il dit n'importe quoi. Je sais très bien comment on les fait. Enfin, avec ma copine Chloé, on a vu des gens tout nus faire des trucs sur l'ordi de mon frère Aurélien. Je crois que c'est comme ça. Mais bon, on n'est pas sûr. Il était tout énervé. Quand il a vu qu'on avait fouillé dans ses affaires, il a tout éteint. Bref, quand la maîtresse a mis un mot dans mon carnet pour prévoir la séance, mes parents n'étaient pas trop d'accord. Ils ont parlé de sexualité, trop jeune. J'ai pas tout compris. Ça se voit qu'ils ont pas fouillé dans l'ordi d'Aurélien pour dire ça. Mais finalement, j'ai eu le droit d'y aller. On a parlé des droits des filles et des garçons. Sylvie nous a même dit que le rose n'était pas qu'une couleur de fille. En même temps, c'est logique. Moi, ma couleur préférée, c'est le vert. La maîtresse m'a dit que je pouvais jouer au foot si je voulais. Mais je veux pas, c'est un sport de tapette. En tout cas, c'est ce que crie papy quand un joueur tombe par terre. Moi, c'est du rugby que je veux faire. Mais je peux pas, y a pas d'équipe pour les filles. On a parlé des règles aussi, mais tout le monde a rigolé parce que c'est sale. Même à la récré, on a fait une balle au prisonnier. Mathieu a pris la balle en pleine tête. On lui a dit qu'il avait ses règles du nez. Je pense que c'est pas possible, mais il est devenu tout rouge, donc c'était super drôle. Le plus important, c'est que peu importe ses différences, on est tous égaux. Au final, tout le monde a aimé. Enfin, tous ceux qui ont pu venir. Il y a juste Marie et Andreas qui sont pas venus. Leurs parents pensent que c'est un truc de gaucho ou de wok. Je sais pas trop ce que c'est, mais la prochaine fois qu'Aurèle m'embête, je lui dirai ça. On verra bien. Je suis trop fière en plus. J'ai appris un nouveau mot compliqué. Le consentement. Sylvie nous a dit qu'il fallait toujours demander l'autorisation à mes copines avant de leur toucher les cheveux. Le consentement, c'est la clé. C'est même le cas en dehors de l'école. Si on n'est pas d'accord, on doit le dire. Même si c'est papa, maman, papy ou n'importe qui d'autre, on ne doit jamais laisser le consentement de côté. Sylvie a aussi parlé de notre corps. Elle nous a dit qu'on devait le respecter. Elle nous a dit qu'on n'en avait qu'un, mais bon, ça, je le savais, je suis pas bête. Papy et mamie, ils auraient changé de corps s'ils pouvaient. Ils se plaignent tout le temps d'être tout cassés. Et puis, si c'était possible, ils seraient pas tout fripés. La maîtresse, elle était contente de nous apprendre tout ça. J'ai demandé à ma cousine, c'est une grande elle, une vraie, elle a 15 ans. Elle m'a dit qu'elle n'avait jamais eu de cours d'éducation à la vie affective. Pourtant, elle est allée à grande école, elle. En plus, j'y vais l'an prochain, moi, au collège. Plus tard, je serai maîtresse. Et moi aussi, j'apprendrai tout ça aux enfants. Je veux que ça soit ma classe la meilleure en mots compliqués. Surtout le mot consentement.
Merci, Rose. L'heure de colle, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi notre émission qui lève le voile sur l'éducation. À très vite et bonne soirée sur Divergence FM.
ce qui a modifié évidemment la pratique des enseignants en éducation aux médias et l'information.
On a 45 absences pour ce matin.
C'est bien évidemment l'apparition des plateformes de médias sociaux.
Handicap et scolarité revêtent des situations très différentes auxquelles l'inclusion tente de répondre.
Son école, il ne veut plus en franchir la grille.
Selon une étude, un quart des écoles ne propose aucune éducation à la sexualité.
Pour l'instant, l'institution ne prend pas la mesure du mal-être dans l'éducation nationale, ça c'est sûr.
Mais l'école, elle sert également à apprendre ce qui se passe dans le monde.
C'est l'élève au centre parce que c'est lui le plus important dans le système en fait.
Bienvenue dans l'heure de colle.